Chapitre 6. Or, on savait que lorsque Monseigneur Gaston Phoebus avait pris une résolution, il ne s'en départait en aucune manière. Chacun se trouva, à l'heure dite, au rendez-vous qu'il avait donné, moins Messire Jehan Froissart, qui, se plaisant peu au plaisir de la chasse, resta au château, afin d'écrire les différentes histoires qu'on lui avait racontées, tant sur la route de Carcassonne à Pamiers que depuis qu'il était arrivé à Orthès. La cavalcade se mit en route, suivie des piqueurs qui menaient la meute. La cavalcade se composait de toute la maison du comte, chevaliers, écuyers, chambellans et varlets. La meute se montait à 1600 chiens, car le comte était très luxueux sur l'article de la vénerie. À 8 heures du matin, on aperçut le bois de Sauveterre qui était situé sur la route de Pamplune. Arrivé à la lisière, on fit halte. Alors Gaston Phoebus, voulant essayer les chiens que lui avait envoyés le comte de Blois, ordonna à 4 piqueurs de prendre Tristan, Hector, Brux et Roland et de se mettre en quête de l'allée. Au bout d'un quart d'heure, Hector l'avait rencontré. Les 4 piqueurs se réunirent, tracèrent une enceinte et renvoyèrent l'un d'eux annoncer au comte que sa lait était détournée. À cette bonne nouvelle, le comte ordonna aussitôt de se mettre en route. Arrivé à la place où la trace s'enfonçait dans les bois, on mit les chiens sur les fumées. Aussitôt, toute la meute donna de la voix et au bout d'un instant, la lait déboucha furieuse et le poil hérissé. À sa vue, le comte hua et sonna, puis mettant son cheval au galop, il s'emporta derrière les chiens, suivi de toute la chasse. Pendant 5 heures, tout marcha pour le mieux. La lait allait au souhait de ceux qui la poursuivaient, se faisant battre merveilleusement et dans une circonférence de 4 ou 5 lieues. Mais vers Basnon, elle prit un parti désespéré, cessant de ruser et piquant droit devant elle. Le comte, voyant que la chasse n'était pas près de finir et que les chiens et les chevaux commençaient à se fatiguer, demanda un cheval frais et ordonna de lâcher tous les autres jusqu'au limier qui avait détourné. Les piqueurs obéirent et la poursuite reprit à grand renfort de voix et de bruit de corps. Au bout de 3 heures, il ne restait plus sur la voie qu'une 100aine de chiens, parmi lesquels Brux, Tristan, Hector et Roland faisaient merveille. Et derrière eux, le comte Gaston Phoebus, suivi à grand-peine des 3 ou 4 chasseurs les mieux montés, parmi lesquels était Messire Yvain. Tout le reste, chiens et cavaliers, avaient perdu la voie ou étaient demeurés en route par cause de fatigue. 2 heures encore, la chasse se continua avec la même vigueur. Pendant ces 2 heures, 96 chiens faillirent et 2 chasseurs s'égarèrent, de sorte qu'il ne resta que les 4 limiers qu'avait amenés Froissart, et Messire Yvain, qui, ayant comme son père un cheval de rechange, avait pu le suivre. Mais la compagnie ne fut pas longtemps si nombreuse. Au bout de 2 heures de course, le cheval de Messire Yvain s'abattit et ne voulut plus se relever. Commençant alors à se douter qu'il y avait peut-être magie en cette vitesse infernale, il cria à son père de ne pas aller plus loin et de revenir avec lui, mais le comte était tellement lancé que, soit qu'il n'entendit pas les cris de son fils, soit que le vent emporta la réponse, Messire Yvain n'y put rien et le vit disparaître au détour d'une route, ce dont il fut bien angoisseux et dolent. Quant au comte, il continua de poursuivre seul la lait maudite que les chiens suivaient toujours à la même distance, sans paraître se fatiguer plus qu'elle. Pour le cheval, il semblait doué d'un instinct merveilleux, si bien que la lait avait beau prendre à travers bois et fourrés, lui, par les chemins et les sentiers, coupait toujours au plus court, de sorte que de 10 minutes en 10 minutes, le comte la voyait traverser quelque route ou quelque clairière, et se remettait à sonner et à huer pour prévenir le reste de la chasse. Mais tout était égaré, chevaliers, piqueurs et chiens, de sorte que personne ne répondait, et c'était une chose bien triste, je vous le dis, que ces chiens qui chassaient sans donner de la voix, et ces fanfares et ces cris qui mouraient dans les bois sans que l'écho même leur répondît. Le crépuscule vint. Le comte était si acharné à la poursuite que l'obscurité qui commençait à se répandre ne put l'arrêter. D'ailleurs, les yeux de la lait brillaient comme des flammes, si bien que, malgré sa couleur sombre, il la voyait passer dans la nuit, et derrière elle, pareil à des ombres, les 4 limiers qui la suivaient toujours. Bientôt, il n'en vit plus que trois, puis que deux, enfin plus qu'un seul. Tristan, Brux et Roland l'avaient abandonné tour à tour, restait Hector seulement, qui la suivait toujours à la même distance, et le comte, que son cheval emportait incessamment d'une égale ardeur. Enfin, la lait parut se fatiguer, et Hector sembla gagner sur elle. Cela donna une nouvelle ardeur au noble animal, et un nouveau courage au comte, qui hua et corna une dernière fois. Puis, laissant retomber son corps de ses lèvres, reprit sa course fantastique au travers des bruyères et des halliers. Enfin, on arriva à une grande clairière, au milieu de laquelle poussait un arbre solitaire et isolé. Hector gagnait toujours sur l'allée, le cheval suivait toujours Hector, le comte pressait toujours son cheval. Enfin, l'allée, ne pouvant plus aller plus loin, s'accula contre l'arbre. Hector se précipita courageusement dessus, mais au moment où il ouvrait la gueule pour faire sa prise, l'allée jeta un grand cri et s'évanouit en fumée. En même temps, le cheval du comte s'abattit pour ne plus se relever, il était au bout de ses forces et de sa vie. Le comte se dégagea de ses étriers, tira son couteau de chasse et courut vers l'endroit où s'était arrêté l'allée, ne pouvant croire à sa disparition. Mais, arrivé au pied de l'arbre, il chercha vainement et ne vit rien qu'Hector qui, désappointé d'avoir perdu la piste, levait la tête et hurlait piteusement. Quel que fût son courage, bien éprouvé, le comte ne put s'empêcher de ressentir un mouvement de crainte. Un frisson parcourut tout son corps et, comme Hector continuait à se plaindre, il lui imposa silence. Puis, regardant tout autour de lui pour chercher à s'orienter et voyant qu'il se trouvait dans une partie de la forêt qui lui était entièrement inconnue, il monta sur l'arbre pour voir s'il n'apercevrait pas aux environs quelque château, quelque maison ou quelque chaumière. En effet, arrivé au faîte, il vit parmi les arbres une lumière qui brillait comme une étoile. Cela lui fit grand plaisir, car il avait craint d'abord de n'avoir que la terre pour lit et le ciel pour dais. Ayant pris la direction de la lumière le plus exactement qu'il lui fut possible, il descendit de l'arbre et s'achemina vers elle, suivi d'Hector, qui, ayant perdu toute ardeur cette fois, n'allait plus devant, mais suivait par derrière, la tête inclinée et la queue pendante. Au bout de 100 pas, le comte quitta la clairière et s'engagea de nouveau dans la forêt. Mais il avait si bien pris sa mesure qu'il ne s'égara ni à droite ni à gauche et piqua directement vers la lumière. Après une demi-heure de marche, il aperçut son étoile à travers le feuillage des arbres. Il continua son chemin avec une nouvelle ardeur. Puis, ayant fait 500 pas encore à peu près, il se trouva devant un château dont une seule fenêtre était éclairée. C'était tout ce qu'il fallait pour indiquer qu'il était habité, et le comte n'en demandait pas davantage, car partout, en la marche d'Orthez où il allait frapper, il était certain qu'à son nom la porte s'ouvrirait avec joie et avec honneur. Néanmoins, une chose qui étonnait le comte, c'est que, quoique éloigné à peine de 30 lieues d'Orthez, en supposant même que l'allée eût suivi une ligne droite, il ne connaissait point ce château, lequel, cependant, autant qu'il en pouvait juger au clair de la lune qui commençait à se lever, paraissait parfaitement fort et merveilleusement beau. Il n'était pas non plus bâti si nouvellement que le comte n'eût point encore eu le temps d'en entendre parler, car son architecture, qui datait de la première partie du XIIe siècle, lui assignait au moins 160 ans d'existence. Cependant, quel que fût l'étonnement du comte, il n'allait pas jusqu'à l'irrésolution. Aussi, sans chercher à approfondir plus longtemps ce mystère, comme le pont était levé, sonna-t-il de toute sa force pour avertir le châtelain qu'un voyageur demandait l'hospitalité. Le cor retentit tristement, mais n'en eut pas moins son effet. Le pont-levis s'abaissa, sans que l'on vît quelle main le faisait mouvoir. Au reste, peu importait au comte, il était sûr d'un souper et d'un gîte, c'est tout ce qu'il lui fallait. Monseigneur Gaston Phébus s'engagea donc sur le pont. Quand il l'eut traversé, il remarqua que son chien ne l'avait pas suivi. Il se retourna et l'aperçut de l'autre côté du fossé, assis et hésitant. Il le siffla alors 2 fois, sans qu'il vînt. À la 3e, cependant, l'animal se décida et traversa le pont à son tour. Le comte ne vit à l'entrée ni serviteur, ni varlet, ni page. Il écouta, mais n'entendit aucun bruit. Cependant, comme la porte était ouverte, il s'engagea sous une galerie qu'éclairait à son extrémité une lampe dont la lumière venait jusqu'à lui, s'affaiblissant et tremblant le long des murailles. Le comte s'engagea sous la voûte, remarquant avec étonnement que, contre l'habitude, ses pas n'avaient pas d'écho et qu'il marchait sans bruit comme l'eût fait une ombre. Et tout étrange qu'était cette circonstance, elle ne l'arrêta point un instant. Arrivé à la lampe, il vit qu'elle éclairait un grand escalier. Cet escalier conduisait à la chambre dont il avait aperçu la lumière. Il espéra enfin y trouver quelqu'un et monta sans hésitation. Quant à Hector, il s'arrêta une seconde fois, mais une seconde fois son maître l'appela à voix basse, et quoiqu'il parût combattre entre une terreur instinctive et l'affection qu'il portait au comte, le sentiment noble l'emporta, et il se mit à son tour à monter l'escalier, mais lentement et comme à regret. Arrivé à la porte de la chambre, Mgr Gaston Phoebus se vit un souper servi. Cela lui annonça les intentions hospitalières du châtelain et écarta de son esprit toutes les craintes qu'il avait pu concevoir. Au reste, la salle était immense, et comme elle n'était éclairée que par un lustre suspendu au-dessus de la table, toutes les profondeurs étaient plongées dans l'obscurité. Quoique le comte s'étonnât encore quelque peu de cette solitude continue, il n'en marcha pas moins vers le repas, qui paraissait d'autant mieux être préparé pour lui que, quoique le service fût abondant, il n'y avait qu'un couvert à la table. Arrivé près d'elle, il jeta un dernier regard autour de lui pour voir si personne ne s'approcherait enfin. Personne ne paraissant, Mgr Gaston Phoebus s'assit, et voyant que son chien ne l'avait pas suivi et était demeuré à la porte, il lui fit signe de venir en frappant avec sa main sur son genou. L'animal, toujours dévoué, obéit et vint rejoindre le comte, puis se coucha à ses pieds. Mais cette fois avec tous les signes d'une répugnance manifeste et en rampant comme une couleuvre. Si résolu que fût Mgr Gaston Phoebus, cette solitude et ce silence prolongé prenaient un caractère si étrange qu'il ne put se défendre d'un frisson intérieur et qu'il porta la main à la courte épée qui lui servait de couteau de chasse pour s'assurer qu'elle était toujours à son côté. Mais voyant que sa compagne fidèle ne l'avait point abandonnée et n'apercevant dans les dispositions faites pour les recevoir que des préparatifs amis, se raffermit avec la rapidité du courage et, s'apercevant qu'un sifflet d'argent avait été posé près de lui, il le prit résolument, et, comme dans les habitudes de cette époque on ne commençait jamais de souper sans se laver les mains, il porta le sifflet à sa bouche et siffla pour appeler un écuyer, un varlet ou un page qui lui apporta l'aiguillère et le bassin. Ce son pénétra si triste et si aigu dans les profondeurs de la salle que le comte se retourna en tressaillant malgré lui et en désirant dans son cœur que personne ne l'entendît et ne vînt, tant il lui semblait que ce bruit lugubre ne devait appeler qu'un serviteur en harmonie avec lui. Ce fut sans doute ce que pensa Hector, car lorsqu'on vit se soulever dans l'ombre la tapisserie qui retombait devant la porte du fond, il hurla doucement et avec un accent si triste que le comte lui mit son pied sur le dos pour lui imposer silence. Mais pour cette fois, moins obéissant que d'habitude, Hector continua de gémir. Cependant, au moment où le comte avait vu se soulever la tapisserie, ses yeux n'avaient plus quitté le point de la chambre où les avait attirés ce mouvement. Il vit d'abord une forme humaine s'agiter dans l'ombre. Mais, quoiqu'il fût évident qu'elle marchât et s'avançait vers lui, il n'entendit sur les dalles de pierre aucun retentissement pareil à celui que ferait le bruit des pas. En même temps, Hector cessa de gémir, mais son maître sentit qu'il commençait à trembler. Néanmoins, celui qu'avait attiré le bruit du sifflet s'avançait toujours. Il était facile pour le comte de reconnaître que c'était un jeune page, vêtu avec élégance, portant un bassin et une aiguillère d'argent, et sur son bras la toile à essuyer. Cependant, à mesure qu'il approchait, un frisson involontaire s'emparait du comte. Il lui semblait, dans la démarche et dans la tournure du page, reconnaître celle du pauvre enfant que, 6 ans auparavant, il avait tué et qu'il pleurait encore. Bientôt le jeune homme entra dans le cercle de lumière projeté par le lustre Et il n'y eut plus de doute, celui qui s'approchait, c'était Gaston. Le comte resta les yeux fixés sur cette apparition terrible et sentant ses cheveux se dresser sur son front mouillé de sueur. L'enfant s'avançait toujours du même pas lent et silencieux. Maintenant le comte pouvait distinguer ses traits tristes et pâles, ses yeux fixes et atones, et à son cou cette petite blessure béante et livide par laquelle sa jeune âme s'en était allée. Enfin, il fit le tour de la table, s'approcha de Monseigneur Gaston Phoebus, et, sans dire une parole à celui qu'il avait tant aimé, sans que ses yeux reprissent leur vue pour regarder son père, il souleva l'aiguillère et tendit le bassin. Le comte, devenu lui-même immobile et muet, comme le spectre qu'il avait devant les yeux, étendit machinalement les deux mains. L'enfant souleva l'aiguillère. Le comte reçut une impression glacée et mortelle, voulut jeter un cri, mais sentant que sa voix mourait étouffée dans sa poitrine, il se renversa en arrière et s'évanouit. L'enfant avait obtenu de Dieu la grâce de venir laver son propre sang aux mains de son père. Le lendemain, la chasse, inquiète et conduite par Yvain, trouva Monseigneur Gaston Phoebus mort au pied d'un arbre de la clairière, et près de lui Hector qui lui léchait le visage. Quant au château, il avait disparu. Dieu fasse miséricorde à tout pécheur qui s'est repenti. Fin de Gaston Phoebus.